Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est chaque soir un entretien d'une heure avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir, avec la romancière Anne-Marie Gara.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, taper.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Encore aujourd'hui, quand j'y repense, c'est ainsi que m'apparaît notre périple. Un rêve inversé dans lequel ma mère est une petite fille et moi, la personne censée, qui doit la protéger comme si elle était mon enfant imprudente, prenant pour jeu le danger. Ces enfantillages m'effraient, mais je me gendarme pour le lui cacher, ne pas la brimer, afin qu'elle réussisse où elle devrait échouer, et chaque fois stupéfaite par son audace, je redouble de fierté. En réalité, elle ignorait tout de ce monde, sa carte absurde devait 100 fois nous égarer. Une femme embarque sa fille, au lendemain de l'anniversaire de ses 6 ans, elles vont traverser autant de kilomètres que d'identité, en carburant aux fictions que l'on se fabrique éveillée. Anne-Marie Gara, votre dernier roman s'appelle Le Grand Nord-Ouest. Il paraît en cette rentrée aux éditions Actes Sud. Bonsoir et merci beaucoup d'être là.
Bonsoir et merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Sur le communiqué qui accompagne la parution de ce livre, vous dites « J'ai été vers là-bas », en parlant de ce roman, Le Grand Nord-Ouest, et en disant « J'ai été vers là-bas après avoir écrit La Source », est-ce que ça veut dire que vous faites des liens très clairs et que vous tenez à ce qu'il y ait des liens très clairs entre vos livres une fois qu'ils sont parus ?
Mais c'est très souvent le cas, je ne sais pas pour d'autres écrivains, mais en tout cas pour moi, je sais d'où viennent mes livres, comment ils ont fermenté d'une certaine manière dans le livre précédent ou d'autres encore antérieurs, et qui ne sont que la suite, quelquefois apparemment sans lien, parce que je peut passer d'un registre à un autre, mais en réalité, ils ont une continuité secrète. Et là, peut-être qu'elle est plus explicite. Sans être une suite de La Source, c'est bien là que prend naissance ce roman-là, Le Grand Nord-Ouest, qui peut être lu d'ailleurs sans qu'on ait lu le précédent, ça ne s'impose pas. Cependant, il y a, pour ceux qui auront lu La Source auparavant, il y a des liens explicites dans le roman, des personnages que l'on retrouve peut-être avec surprise, mais enfin, ils sont là. Et donc, également, ce qui lie l'un à l'autre, c'est que, ayant achevé La Source et l'ayant écrit, ce faisant, en voyant de mes personnages là-bas dans ce grand nord-ouest américain, canadien, avec les seules ressources de mes références à moi, de ma culture, de mes lectures, des films, des documents d'ethnologie, et puis Google Earth, et etc. Enfin, tout ce dont on peut s'accompagner pour écrire, j'ai ressenti quand même le besoin d'aller voir là-bas, oui, de faire le voyage. Et même si je m'attendais à être surprise, à découvrir des choses que je n'imaginais pas. Bien sûr, l'imagination est légitime pour un écrivain, c'est ça. C'est la licence romanesque qui permet de créer des mondes avec le langage. Il s'est passé là-bas des choses qui ont en effet nécessité, j'allais dire à nourrir, non. C'est devenu une nécessité en rentrant de m'embarquer dans ce nouveau roman.
Quand vous dites « je sais toujours d'où viennent mes livres et je sais depuis quand ils fermentent et avec quoi comme ingrédients ils ont fermenté et d'où ils viennent en moi », ça a toujours été le cas, Anne-Marie Gara ?
Ça n'est pas si précis, mais je m'apprends moi-même, pendant que je l'écris, à rencontrer des motifs, des leitmotifs, des thèmes qui sont déjà présents par ailleurs, quelquefois même des scènes tout entières qui inachevées ou dont l'écriture m'a laissé dans une attente, dans une insatisfaction. Et donc je pourrais, comme ça, de manière rétrospective, dire « Ah oui, ça c'était en Genèse, ici ou là, ça n'est pas si conscient que ça, c'est si clair quand même, heureusement d'ailleurs ».
Ça veut dire que vous êtes toujours en écriture, qu'il n'y a jamais de temps en vous sans livre, sans quelque chose qui est en train de germer ?
Oui, parce que alors là, vous voyez, c'est là, c'est cette fameuse, ce fameux mythe de la page blanche. Voyons, si on se met devant une page blanche, on se dit, ah, qu'est-ce que je vais écrire maintenant? C'est que l'entreprise d'écrire exigerait une sorte de décision programmatique, de s'atteler comme ça dans le vide de la page, devant à quelque chose de neuf. Or, moi, j'ai absolument jamais eu ce sentiment-là, le vertige, le fameux vertige, le silence de la page blanche. De quel sujet je vais traiter, de quel, bon, etc. Non, non. Déjà, dans le livre que je viens d'achever, de toute façon, il y a des restes, des épaves, des développements que j'ai rejetés, etc. Et donc, même, c'est pas le prochain, mais c'est peut-être le suivant ensuite qui va se nourrir de ça. Et je garde ces épaves, non par fétichisme, mais tout simplement parce que je sais qu'il y a là un reste dont le livre n'a pas besoin. Que le livre expulse en quelque sorte, il n'en a pas besoin pour être achevé, il rejette, ou je rejette, ou je rature, ou j'enlève, enfin je dégraisse, ou je ne sais comment dire, et cependant il y a là une matière de langage, une matière d'imaginaire qui, je lui fais confiance à cette matière-là, je la laisse reposer, peut-être qu'elle ne servira plus jamais à rien, mais donc pour moi elle est déjà le support, le socle sur lequel va... peut-être dans des directions totalement imprévues, va partir le prochain roman. Je continue.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez écrit la source avec votre propre matière, vos propres références, éventuellement vos propres lectures. Ça veut dire que pour vous, il y a un grand lien entre tout ce que vous lisez et ce qui finit par s'écrire ?
Je l'ignorais un peu, mais c'est en écrivant la source. Au point où j'en étais, je savais que j'avais besoin, pour un personnage qui s'appelle François Ardenne, qui avait disparu de sa famille en Franche-Comté, de la maison, etc., qui avait d'ailleurs renvoyé son bébé à sa mère, un cadeau un peu dangereux et empoisonné, je savais qu'il était loin. À cette époque, à ce moment-là de l'écriture du roman, je ne savais si c'était Bornéo, si c'était la Patagonie, ou... je savais simplement qu'il était à l'autre bout du monde. Et c'est ce que dit Giono aussi, à l'aventure de la phrase, ce qui ne veut pas dire écrire n'importe quoi. C'est tout le contraire même, c'est cette prescription en quelque sorte des mots qui ordonnent dans la phrase même qu'on est en train d'écrire des choses qu'on à notre insu que l'écrivain ignore lui-même et qui le conduisent quelque part. Et j'ai tapé Klondike. Et je me dis Klondike et Internet, etc. Et bon sang, mais c'est bien sûr, c'est La Ruée vers l'or, c'est Chaplin. C'est toute la mythologie du Grand Nord-Ouest, de la cabane en rondin, Jack London.
Vous l'avez dit en soupirant comme ça.
Ah, mais, ah, mais non,
vous
je me dis
ah mais tombe dessus, ah mais bon c'est bien
bon sang, mais c'est bon sang, mais c'est bien sûr. En plus, ça correspondait à l'époque, enfin, du roman du départ de ce personnage, etc. Mais bien sûr que c'est là qu'il est allé. Et mais du coup, c'est ouvert à moi toute cette réserve à laquelle je ne pensais pas, mais qui est quand même le fond accumulé à travers et depuis la jeunesse, depuis mes lectures de jeunesse, en particulier de London, que j'ai lu alors que je n'aurais pas dû le lire, c'était pas une lecture de fille, comme on dit. J'avais heureusement avec moi un petit cousin qui m'a, comme ça, à qui j'ai piqué ses lectures, qui m'a sorti de mes lectures de fille, on peut dire. Bon. Et donc, et puis et cette cabane en rondin que j'avais déjà fréquentée, qui fait même la couverture de la source, qui est une boule à neige, c'est un jouet absolument banal, qui contient une petite cabane en rondin. Ce rêve-là qui est dans Citizen Kane, qui se brise dès le début du film et que l'on retrouve, pour ceux qui sont assez cinéphiles, pour s'arrêter tout au long du film, qu'on retrouve à tout instant du film plusieurs fois dans des endroits absolument imprévus, ou donc dont Wells a ponctué le film tout entier de cette présence de cette boule à neige qui contient à elle toute seule. Là, je me suis dit des choses à moi-même au sujet de cette figure de rêverie, de d'imaginaire très naïf, très et en même temps universel, de cet abri primitif. C'est aussi bien celui des trois petits cochons, n'est-ce pas, contre le grand méchant loup dans les rêves d'enfants, celui de Hansel et Gretel qui est un piège d'ailleurs, mais c'est aussi cette cabane universelle qui vient d'ailleurs du fin fond de l'Europe, aussi bien de Scandinavie, de Russie, que de nos granges de Savoie, etc., qu'ont importé, emporté avec eux, exporté avec eux les pionniers, les trappeurs, tous ceux qui partaient chercher un monde meilleur dans les territoires américains, du Canada ou des États-Unis. Elle est universelle, cette cabane-là, dans sa construction à la fois primitive et très intelligente de l'assortiment, de la manière d'étayer ensemble les rondins, retravailler de telle sorte qu'ils s'imbriquent. Elle est Et là, on a une figure que j'ai retrouvée, si vous voulez, du fin fond de mon enfance, et que je poursuis en effet dans ce nouveau livre, La cabane de Clue Lake.
Et l'enfance est extrêmement présente, on aura évidemment l'occasion d'y revenir, mais puisque vous avez prononcé son nom, Jean Giono, je vous propose qu'il nous parle une nouvelle fois.
Assez souvent, on me pose la question de savoir dans quel lieu se trouvent les terres que j'ai employées dans mes romans, les paysages que j'ai employés dans mes romans. Et on essaye de me les faire délimiter sur une carte de Michelin. Mais je les délimite, évidemment, je leur dis c'est à peu près à cet endroit-là, on arrive par tel chemin, on repart par tel autre chemin, mais le long de ces chemins, les paysages que j'ai décrits ne sont pas ceux qu'on voit. Ce sont des paysages qui ont été recomposés avec les paysages existants et qui sont devenus des paysages nouveaux. De ces paysages nouveaux, j'ai fait un pays particulier. De ce pays particulier, je l'ai fait habiter par des gens que j'ai composés avec des caractères de paysans connus, mais qui sont également inventés eux-mêmes. Tout compte fait, et pour comparer les petites choses aux grandes, j'ai fait, en ce qui concerne la Provence, ce que Faulkner a fait pour le Sud américain. J'ai fait exactement pareil, j'ai composé un Sud imaginaire, moi aussi, dans lequel des paysans, des personnages imaginaires vivent des drames imaginaires. Mais je crois que si j'avais été libre de m'installer où je le désirais, j'aurais choisi un pays dans lequel il pleuvrait beaucoup, dans lequel il y aurait des forêts avec des humus, des étangs avec des grenouilles, des espèces de choses humides. J'aime beaucoup l'humidité, j'aime la pluie, j'aime les ciels couverts, j'adore les ciels d'Île-de-France, par exemple, et j'ai trouvé un jour le lieu béni où j'aurais voulu habiter, c'est l'Écosse. Dans cette Écosse solitaire, j'aurais, je crois, été tout à fait à mon aise, et beaucoup plus à mon aise qu'en Provence. Remarquez que cette vie en Provence avec le soleil, que je n'aime pas, me permet précisément d'inventer avec beaucoup plus de liberté des quantités de paysages et de personnages, et de me plier avec beaucoup plus d'appétit et beaucoup plus de bonheur à la discipline du romancier.
Absolument délicieuse à Archives de 1950 de Jean Giono, qui a deux doigts de dire pleurer pour dire pleuvoir quand même, avant d'avouer qu'il adore les ciels d'Île-de-France. On l'attendait pas forcément là. Et qui dit, voilà, on me demande souvent de délimiter mes territoires d'écriture. En gros, on me demande souvent de réaplatir mes territoires à du réel. Et en fait, c'est plus composé, c'est plus imaginaire. Il parle de son pays particulier. Anne-Marie Gara, vous avez dit, en faisant le voyage, il s'est passé quelque chose sur place. Alors, sans vouloir vous demander de réaplatir votre livre fictionnel à un territoire réel, qu'est-ce qui s'est passé quand même ?
Quand même deux mots pour Giono.
Évidemment.
Là. Je suis très émue d'avoir entendu sa voix et parler de cette manière-là de nous offrir, de nous faire ce cadeau royal de ce que c'est que le laboratoire de l'écriture. Comment on transpose face au réel un imaginaire. Et même cette Écosse dont il parle, elle est présente dans la sublime préface à Pour saluer Melville, où il entraîne son Melville inventé, cette biographie inventée, fictionnelle, avec Adelina White, qu'il est dans un paysage de brume, en effet, et c'est quand la brume s'échancre sur une lande de bruyère, etc., qui n'est absolument pas la Provence, que s'ouvre le monde par lequel Giono se passe commande d'être le grand Giono à venir, des immenses romans qu'il va écrire, qu'il n'a pas encore écrit. Bon, voilà.
Non, on peut, merci, dire, plus de, on peut merci. Dire plus de deux mots sur Giono, parce qu'évidemment, si on vous propose d'écouter cette archive-là, c'est qu'on sait qu'il y a une sorte de quoi, d'amitié, on va dire, entre vous deux.
Et il a raison de se hausser à la hauteur de Faulkner, dont on fait grand cas, nous Français, en littérature, et on a raison.
Et on a raison.
Mais quel immense écrivain, je trouve trop méconnu, mésestimé encore parmi nous.
Et il faisait partie de vos lectures tout à l'heure, vous disiez, de vos lectures de jeune fille.
Non, je l'ai découvert très tard. C'est ces accidents comme ça qui font, je sais très bien quand. J'ai lu le premier Giono qui m'a fait tomber après Colline, etc., qu'on nous fait lire quand on est gamin. Comment ai-je pu ne pas pouvoir lire ça? Que j'avais buté, je n'arrivais pas à entrer dans Giono. Et j'ai eu cet éblouissement. Et après, j'ai avalé en moins d'un an les Pléiades, évidemment, extraordinairement bien annotées par ces exégètes, Citron, Henri IV, etc. C'était magnifique. Ça, c'était la découverte tardive de Giono, l'éblouissement.
Alors, pour en revenir à ce qu'il dit, de la manière dont on lui demande de délimiter ses terres de fiction dans les terres réelles et au voyage que vous avez fait, alors réel ou pas, vous nous dites, vers le Grand Nord-Ouest, Anne-Marie Gara.
Oui, parce que vous voyez, là, quand on va vers des terres inconnues, mais pas complètement inconnues, dont les lectures, le cinéma, etc., la peinture, je pense, à Cézanne. Est-ce que vous pouvez aller voir aujourd'hui la Sainte-Victoire? Bon, c'est un exemple standard, mais enfin, sans avoir dans les yeux et comme une espèce d'écran qui se projette, hein, de l'avoir à travers sa peinture. Et donc, il faut se méfier de ça. J'allais quoi chercher au Yukon? Ce que j'en avais écrit, ce que j'en avais lu, ce que j'allais faire. Et quand même, ça, le temps que j'y ai passé, pas très très long, mais quand même, a permis deux choses. D'une part, de physiquement éprouver la démesure de ces espaces-là, qu'on peut toujours, en alignant les milliers de kilomètres, vous pouvez, mais enfin, avec le corps, l'éprouver, y compris en voiture, y compris bien sûr que c'est pas de l'arpentage à pied, hein, et de toute façon, ce sont des endroits qu'on n'arpente pas à pied, au risque de la mort. Bon. Et il y a des pistes, évidemment, il y a quelques voies carrossables qui ne sont pas ni des autoroutes, ni proprement des routes, c'est-à-dire qui sont pour certaines goudronnées mais défoncées tous les hivers et à refaire, d'autres qui sont simplement en terre damée et défoncées à la moindre pluie, enfin, et puis n'oublions pas qu'il fait moins 40 quasiment 10 mois sur 12, enfin bref, donc c'est pas très carrossable, ça l'est un petit peu, et en tout cas pour ce qui est arpentable à pied, que le touriste, le visage pâle qui s'aventure par là-bas se méfie, et d'ailleurs les locaux vous le disent, enfin, ne sortez même pas de 10 mètres de la piste tracée, vous êtes en danger de mort. Ça, voilà. De mesurer à la fois la démesure de ces espaces, cette forêt primitive, cette forêt boréale qui n'a rien à voir avec nos forêts occidentales domestiquées, les hautes futaies, enfin, qui hantent les contes et notre imaginaire. Cette forêt-là est quand même très étrange. Elle est pas laide. Comment dire, c'est une catégorie. Elle est petite, elle est naine, rabougrie. Il y a de beaux sujets, hein, qui arrivent à s'élever, mais c'est inextricable. Ça n'est pas domestiqué et donc c'est une forêt dans son état primitif, telle peut-être que les quatre fils Aimon la traversent dans le cycle médiéval. Et donc il y a ça, l'invisible de ces terres, l'invisible, c'est-à-dire que tout est présent et rien n'est visible. Je veux dire que la faune est là en permanence, qu'elle soit de l'ours, du loup, de l'orignal même, enfin, et de grands animaux, mais de petits, du renard, et des oiseaux et de tout ce que vous voulez, des prédateurs qui sont là que vous ne voyez jamais. On n'est pas dans un zoo, on n'est pas dans un parc animalier comme s'en offrent les touristes en Afrique du Sud ou je ne sais où, hein, où vous allez voir à l'aube faire un safari photo pour voir les lions venir boire au... Non, là, on réalise, et j'ai entrevu un ours, oui, ce qui est un petit passage du roman. J'ai entrevu, je crois avoir entrevu, c'est pas sûr. Et c'est là qu'on touche du doigt, d'ailleurs, la question de la perception, de cet exercice de l'œil qui, n'étant pas à l'affût ou n'étant pas éduqué, manquant d'une culture de l'environnement, je parle pas de nature, hein, de l'environnement, fait que des choses peuvent échapper totalement à votre perception, parce qu'il votre n'y est pas exercé. Je crois avoir vu un ours à quelque chose comme 50 mètres, et qui était tout sauf ce que les représentations de grosses boules de poils ou de nounours, ou au contraire du fauve, du grizzly dressé sur ses pattes arrière et qui fait quand même 3 mètres de haut quand il est debout, hein, faut pas oublier. Bon, non, rien de cela. Une espèce de buisson mouvant, dans une légèreté de danseuse, et en même temps d'une musculature, d'une puissance et à la fois d'une légèreté, furtif et disparaissant immédiatement. On aurait dit qu'il ne touchait pas le sol. Et dans cette apparition furtive, en même temps une présence qui se dérobe, et c'est ce que font. Alors là, il s'agit d'une longue culture et d'un long apprivoisement de la culture des Premières Nations et de ces gens qui vivent avec l'animalité, n'est-ce pas, dans une familiarité, mais qui peut connaître l'hostilité. La chasse, c'est pas une partie de danseuse là pour le coup, hein. L'approche de l'animal, comme d'ailleurs les grands chasseurs le savent en Occident, est une démarche non seulement de technique, etc., etc., mais également mentale, d'un apprivoisement préalable à la rencontre avec l'animal qu'on cherche à provoquer, qui va peut-être avoir lieu, où l'on sera peut-être en état de l'approcher suffisamment, de le tuer peut-être, si la circonstance s'y prête, lui-même l'animal étant crédité de la même intentionnalité d'être là, de s'être laissé surprendre, de se laisser tuer ou non, de se refuser au moment de la mort. Et donc dans cet échange-là très puissant entre, je dirais, c'est de l'animisme évidemment, mais des esprits, des âmes, sous des habits différents de l'homme et de l'animal, dans leur coprésence, il se passe des choses qu'on appelle la chasse. Bon, donc ça, si vous voulez, et sans un savoir préalable et surplombant, j'ai pu l'éprouver, à la fois de l'invisible, de ce qui est très présent autour et qui se manifeste de manière impondérable et furtive. Et puis l'autre chose, c'est la rencontre avec des êtres humains, avec des Amérindiens, avec des gens, d'aujourd'hui d'ailleurs. Et on est loin là du folklore, du pittoresque, je ne sais pas, des gens qui sont évidemment... on dit assimilés, qui sont le résultat de 4 siècles de spoliation, de prédation, de soumission, de destruction et d'ethnocide. Hein. Ce qu'il en reste de ces gens-là, bah, la plupart sont intégrés à la société, à Fairbanks, ils travaillent dans une banque, ou ils sont instituteurs, ou ils sont avocats pour certains, enfin, et tout ce qu'on veut, ou simples travailleurs, enfin bref, voilà, c'est des gens. Mais qui continuent de, sans doute dans un réveil tardif et autorisé, je mets ça entre guillemets, par la loi, de maintenir vivante, si on peut l'envisager comme possible, la culture héritée. J'ai rencontré
beaucoup de
ces gens-là. J'ai surtout rencontré une très vieille dame, une nonagénaire, qui à l'âge de ma narratrice lotie dans, c'est-à-dire de ces femmes, de ce genre de femmes très vieilles, qui est une archive vivante, n'est-ce pas, qui cumule en elle la mémoire de plusieurs générations et héritières ainsi, dernière survivante peut-être, est-elle morte aujourd'hui. J'ai rencontré cette femme qui affectait en tout cas de ne pas parler anglais, français non plus évidemment, bien qu'il y ait 30% de francophones au Yukon, et qui m'a fait une réponse que j'ai mise dans mon roman. J'étais allée chercher là quelque chose au fond de moi, que je le dis, j'ai le temps peut-être de dire que ce nom d'Onayepa, qui est dans la source et qui baptise la petite fille envoyée par son père de Dawson City à sa vieille mère comme une espèce de punition et de défi, elle porte sur son acte de paternité. Et j'avais trouvé ce nom comment? En allant quand même de manière un peu sérieuse chercher sur des sites de linguistes canadiens, enfin je croyais m'être bien là, là. Donc j'avais trouvé Onayepa, ça voulait dire princesse de l'hiver, génial. Bon, en plus, le conte de Lottie, ça a pour moi engendré le conte de la nourrice qui console la petite fille de son orphelinat, d'être orpheline, par ce conte mirifique qui l'a fait fille d'un roi, enfin, descendante d'un roi indien, à travers sa mère, enfin, etc. Bon. Et quand même, ce nom, connaît pas. Onayepa, connaît pas. Ça veut dire princesse de l'hiver. Qu'est-ce que c'est ça, princesse? Princesse, c'est la fille du roi. Roi, ben, chez nous, il y a des chefs, il y a des chamans, des guerriers, des branleurs et des menteurs comme ailleurs. Mais roi, connaît pas. Et ça, ce choc, si vous voulez, renvoyé à ce qui est certes la licence romanesque, moi de loin, de ma vieille Europe, tout ça, je me fabrique un nom qui va le faire pour le lecteur, qui va donner une couleur, qui va colorer d'indianité le nom de ce bébé, de cette petite fille, donc qui grandit, etc., et qui porte ce nom. Quelle indécence, quelle... Et là, j'ai touché du doigt cette question du nom qui occupe le roman de Herman, qui... baptisé de ce nom chrétien qu'il porte en exil de lui-même, et de Casca également, qui réserve le secret sur d'où lui vient son nom. Cette manière de baptiser à nouveau la petite fille, de lui changer de nom. La question du nom confisqué, du nom volé, du nom indu, etc., mais revenu en boomerang, et dans le mépris et l'oubli de ce qui est le premier geste, le plus violent, le plus criminel des prédateurs occidentaux, premier trappeur, premier marin, premier conquérant, etc., qui sont arrivés sur ces grandes terres de Bering, de Frobisher à Hudson, etc., qui ont donné leur nom à des compagnies, à des baies, enfin, la première chose, c'est la confiscation du nom. Nom des lieux, nom des lacs, des étangs, des pistes, des reliefs, et nom des objets, et nom des gens. là où on s'installe, ça va devenir ça va devenir Cluane Lake, ça va devenir Bonanza Creek. Là, on a découvert le premier filon d'or fabuleux du Klondike, etc. Le Klondike lui-même, à Dawson City, la rivière à Dawson City, etc. Qui sont des changements de nom. C'est la première chose. Et la carte dont parlait Giono à l'instant. La carte, on le sait bien, est le premier moyen par lequel on s'approprie.
D'ailleurs, la carte qu'a la mer est une carte, je lisais dans l'extrait que j'ai lu en introduction, ou pour introduction, on entend sa carte absurde devait 100 fois nous égarer. Vous faites de cette carte-là, de cet objet, quelque chose qui n'est pas là forcément pour guider, inscrire, délimiter, mais davantage pour la perte, Anne-Marie Garin.
C'est une carte qui perd. Elles existent. J'en ai vu à Whitehorse une collection, parce qu'ils avaient fait une exposition 2 ou 3 ans auparavant, de ces cartes. Carte folle dans les archives récupérées de cette époque, et même antérieure, du 19e siècle, où des escrocs vendaient à prix d'or à ceux qui venaient chercher l'or, ou aux trappeurs, aux chasseurs de bois, enfin, etc. Des cartes complètement fantasques, imaginaires, enfin fausses, qui ne pouvaient que les égarer. Et cependant, certains, c'est ça la chose inouïe, la puissance de l'imagination et du désir et du forcené, enfin, et du courage aussi sans doute, c'est qu'avec ces cartes-là, ils arrivaient quand même quelque part, qui n'était pas forcément là où la carte folle devait les mener, mais la carte allait quand même les mener quand même quelque part. Ils arrivaient là où ils croyaient devoir aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette puissance de la carte imaginaire, c'est ce qu'elle a dans sa poche de chemise. Une carte d'ailleurs qui est un piège terrible tendu par celui qui l'a lui envoyé pour la tenter de partir là-bas et d'y trouver quelque chose comme une trace de l'auteur de la carte, pour y trouver peut-être encore autre chose qui est entre eux, qui est comme une espèce de secret, de pacte, auquel elle pense peut-être même pas, cette fameuse boule à neige qui a peut-être échoué là-bas dans le Grand Nord et enfin trouvé, rejoint sa place. Mais en effet, elle suit une carte folle, cette femme. Assez folle pour la suivre.
Cette voix n'est pas celle de Jessie. C'est celle que je tente de faire entendre par la mienne, en écrivant ces lignes sous sa dictée. À mon tympan résonne sa voix inaudible à quiconque, sauf à moi. Comme une chambre sourde amplifie les bruits de très faible fréquence dans le silence paradoxal du caisson, j'entends son cœur vivant battre le mien. Sa langue ventriloque parlait la mienne. Ses mots se pressent à mon oreille, jusqu'à l'illusion qu'elle est là, tout près. Non un esprit sorti des glaces, mais un être charnel, debout, derrière moi. Sa bouche chaude à ma nuque, ses bras entourant mes épaules. Je ne suis pas seul ici. Parfois la sensation est si forte que je me retourne, mais il n'y a personne. Jessie n'est là que si, attablé au clavier de ma Remington portable, je tape sous ma lampe de bureau, lettre à lettre, ligne à ligne, ce qu'elle m'a raconté quand elle a débarqué chez moi, un soir d'avril 1954. Tant de gens qui cherchent une oreille tombent sur la mauvaise, indifférente, stupide, paresseuse ou malveillante. Autant jeter sa pierre au puits. Rare est l'oreille disposée à entendre. Incrédule par intermittence, mais réceptive, inquiète. Et puis captive. Comme d'un livre ouvert par hasard, qu'on ne lâche plus une fois commencé. Cela dépend d'une qualité d'attente, d'une vacance de l'esprit, et aussi du narrateur, de sa voix, de la façon dont il raconte. Cette fois-là ou une autre, il ne dirait pas la même chose. Sa version pourrait varier, s'altérer, bifurquer vers une autre destination, mais nul ne peut le contredire, rectifier ou infléchir le cours inexorable du récit, qui prend au fur et à mesure sa forme définitive, irréparable et fictive, irréparable et fautive. Et tant pis pour toi. Je t'écouterai si tu me convaincs, si tu me blesses et me guéris. Cela dépend de ta passion, de ta fièvre ou de ta peur. Tant de choses sont possibles qu'on ne peut entendre et d'autres incroyables qu'on accepte pour vrai. Mais t'écouter, pourquoi moi? Pourquoi viens-tu si tard, me disais-je.
En sculpture, Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Dans ces deux extraits mis bout à bout, Anne-Marie Gara, les récurrences à la voix, à l'écoute, au ventriloque, à être en mesure d'entendre quelqu'un parler pour pouvoir enfin écrire, nous renseigne sur l'un des aspects de votre livre, Le Grand Nord-Ouest, qui parle de personnes racontant des histoires et les écrivant. Est-ce qu'écrire, c'est pour vous être en mesure d'entendre ?
Oui, évidemment. Lire aussi, je pense. Je pense que la lecture, le lecteur que nous devenons, on dit grand lecteur, mais vous savez, je crois que c'est un lecteur d'enfance qui est en nous, dans la première découverte que nous pouvons passer des heures captifs, d'une voix intérieure que nous faisons, que nous animons avec les yeux bien sûr, mais avec tout notre corps qui participe à l'acte de lecture qui est tout sauf passif, qui est intensément incorporé, et qu'il y a là quelque chose presque de chamanique, n'est-ce pas ? Éblouissant et ravissant quand l'enfant découvre ça pour la première fois, que peut vivre en lui une voix qui lui révèle, qui lui ouvre des mondes et qui lui fait éprouver des sensations, des émotions, des sentiments, des peurs, des joies, des attentes. Et c'est cette puissance de la littérature qui est d'abord, dans son histoire même, immémoriale, d'abord orale. C'est-à-dire qu'il passe par la voix déposée dans la cochlée, dans le pavillon interne, très très physique, donc dans cette vibration de cette caisse de résonance intérieure, qui bien sûr a des ramifications mentales, psychiques, sensibles, hein, et que nous pouvons déposer dans l'oreille de l'enfant, comme l'annonce quand nous lui disons des contes ou des comptines ou des petits secrets, et même dans les tout premier temps de sa vie, de cette bonté, de cet acte d'oralité qui vient déverser dans son oreille l'annonce avec le miel, le lait, le sang de l'histoire humaine, de ce que nous lui mettons dans l'oreille, c'est l'annonce que dans le langage est notre humanité, que là il va se passer des choses. Je crois que c'est l'acte même de lire, hein, qui est la résurrection au fond de nous, encore une fois de manière chamanique, de la voix de l'écrivain. Ce que j'appelle la voix, c'est la nôtre voix, bien entendu, hein, par laquelle nous modulons le langage, à travers les mots, le tempo, le souffle, la respiration, la musicalité, etc., de la langue, qu'elle soit du poète, de Baudelaire, de Homer, ou de je ne sais qui, de Rabelais, ou qui vous voulez, peu importe, ou de Faulkner, et de Giono, bien sûr, etc. En lisant, nous les chantons.
Et en même temps, vous faites trembler toutes les certitudes sur les voix, puisque le premier extrait que vient de lire Romain commence par « Ce n'est pas la voix de Jessie ». Et à plein de moments dans le roman, on se dit « Qui parle ?»
Et bien sûr, ne t'y fie pas. Lotti disait dans le roman précédent « Ne me crois pas sur parole ». C'est-à-dire que le narrateur, le raconteur, le récitant, disait Lotti. Le récitant, celui qui vient dire le texte sur la scène, enfin, de la fiction. Nous lui faisons confiance, nous finissons par oublier à un moment donné qu'il est là et que c'est de lui que dépend la construction, l'ordonnancement, la suite, à la fois des péripéties, des aventures, de la manière de les colorer, de les qualifier, de chasser, d'évacuer, de faire silence sur certains épisodes, de raccorder ailleurs, etc. Que nous sommes pieds et poings liés à ce narrateur qui va nous amener là où il a envie de nous mener. Peut-être même lui-même ne sait-il pas toujours très bien, c'est à son insu qu'il va quelque part, l'écrivain. Et donc, en effet, ce roman est un emboîtement de voix. Il y a d'abord la voix de Jessie à 20 ans, qui n'est pas celle de la petite fille, qui imite celle de la petite fille. Ça ne tiendrait pas la route, plus de 15 pages, de croire que c'est une petite fille de 6 ans qui peut raconter avec autant de surplomb l'histoire qui lui est arrivée avec sa mère. 15 ans se sont passés avant qu'elle ne vienne frapper dans cette banlieue d'Anchorage au mobilhome de Bud Cooper pour lui demander de l'écouter et même le payer pour ça. Ce qu'elle vient lui dire, c'est « Écoute-moi, pourquoi viens-tu si tard ?» 15 ans après, elle vient, et c'est ce qu'elle lui a raconté, en quelques jours, qui font que il d'abord se met à l'écouter, et qu'ensuite ils vivent quelque chose ensemble, parce que ce qu'elle lui demande, c'est pas simplement de l'écouter, c'est de la ramener là où s'est interrompue l'histoire, 15 ans plus tôt, quand il est venu l'enlever sur les ordres du FBI aux Indiens avec qui elle vivait, à Ishi Lake. Et donc, c'est à lui précisément, et nul autre monde ne peut mieux l'écouter que lui. Il est le seul partenaire de cette histoire qui peut comprendre, entendre, accepter d'entendre ce qui s'est passé, à qui elle raconte, et lui nous dit d'emblée aussi qu'elle n'est plus là, qu'elle est sortie de sa vie, de sa vue, pardon, mais non pas de sa vie, et qu'il n'est que le récitant, que le narrateur, que l'écrivain de son texte. Et donc, cet emboîtement-là, mais même la fiction, non pas en crise, mais disons, devrait rappeler sans arrêt au lecteur, par un jeu évidemment, c'est un peu cruel, c'est comme de rappeler, bon, attention, vous êtes au cinéma, ou je sais que c'est un très vieux procédé, attention, vous êtes dans un roman, mais le roman n'est que la croyance, et qui est merveilleuse, qui est magnifique, tant et tant, on voulu enterrer, on voulu dénoncer, etc., de cette croyance soi-disant naïve, qui est tout sauf infantile, de se prêter au récit, d'accepter d'entrer dès les premières pages dans des mondes qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas, etc. C'est-à-dire l'acte de lecture et qu'offre le roman son apparente naïveté de fiction, n'est-ce pas, qui est tout sauf une naïveté. Encore comme je disais à propos de la voix, une manière de retrouver au fond de nous cette capacité, cette puissance humaine, dépousée par le langage des mondes que nous ne connaissons pas, des mondes dans lesquels nous sommes ensuite de plein pied. Donc c'est ce que fait Bud
acceptant d'écouter cette jeune femme qui vient le voir. Mais le langage, la fiction et la manière dont on se plaît à voir raconter des histoires dans votre roman, Anne-Marie Garas, c'est aussi porté par la figure de la mère qui ne cesse de s'inventer des nouveaux noms, mais aussi des noms à sa fille, et d'entourlouper par son art de la parole toutes les personnes qu'elle croise. Elle aussi, c'est une espèce de romancière à ciel ouvert.
Oui, elle est en cavale, elle a intérêt à changer de nom, elle a volé des cartes d'identité à des filles qu'elle a fréquentées, qui visiblement ont toutes été assassinées les unes après les autres, on peut peut-être la soupçonner d'avoir été complice, peut-être pas plus tôt, les Rital, les mafieux qui entourent son mari et qui l'ont également exécuté. Donc, elle a de multiples identités dont elle joue, avec en effet un goût de la fiction, du travestissement, qui illusionne tous les gens qu'elle rencontre, peut-être moins qu'elle ne se l'imagine. Il y a quand même des gens qui ont compris qu'elle n'avait pas froid aux yeux, pas froid aux fesses non plus, et qu'elle était prête à tout et n'importe quoi. Les gens qu'elle rencontre à Juneau, l'épicier Costas et le marin Jim Donegan, elle s'illusionne peut-être elle-même. Elle est cependant à la recherche d'une vérité d'elle-même qu'elle va finir par rencontrer. Ce rendez-vous-là est une sorte de, là aussi je retrouve des figures de la balle qui a son fusil, qui a son billet, dit-on, et qui la rencontre dans cette montagne de par moins 20, loin de tout, et en traversant le champ des sépultures indiennes, qui finit par la rejoindre avant même qu'elle n'ait vraiment, vraiment atteint son but. Elle est à la recherche de ça, elle aussi, d'une espèce de rencontre avec elle-même définitive et en même temps, elle produit pour les autres des fictions, sans arrêt. Mais dans ces fictions, il y a des vérités aussi. C'est-à-dire qu'elle raconte, par bribes, elle donne des éléments de son histoire, de sa cavale depuis le lac d'Évian, à travers l'Europe, et puis à travers surtout Vogue, grand navire à travers l'océan Atlantique, comme tant de migrants. Et puis sa traversée avec la route 66 de tout le continent. Son arrivée à Hollywood, à Los Angeles, et etc. Et donc, ce qu'elle a à raconter, c'est aussi une histoire qu'on connaît tous, j'entends, que brasse le cinéma, que brasse les romans, enfin. C'est une histoire qui repose sur des fondements, comment dire, historiques, réels, enfin, de temps et temps de migrants qui ont pris ces routes de l'Ouest. Également, cette manière ensuite de d'épouser l'équipée des trappeurs, des chasseurs de bois, et de foncer d'abord avec sa Dodge, et puis ensuite à pied, etc., à travers des territoires non cartographiés ou dont les pistes sont méconnues, connues des sales indiens. Mais là aussi, je rencontre des figures qui viennent du roman, bien sûr, de l'imaginaire et de la réalité. Les frères Jaco ont existé. Ces deux frères ont existé. J'ai rencontré leurs descendantes. Ils sont encore au bord du lac Luan, leur pourvoirie, les cabanes de Silver City.
Deadwood, territoire du Dakota, 25 septembre 1877. Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal, et il se peut même que ça ne te parvienne jamais, mais j'aime penser à toi en train de le lire. Page après page, un jour dans les années à venir, après que je serai parti, J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seul dans ma cabane ce soir et fatigué. J'ai fait aujourd'hui 60 miles à cheval jusqu'à la poste et je suis rentré ce soir. C'est ton anniversaire et tu as 4 ans aujourd'hui. Vois-tu, ton papa, Jim, m'a promis qu'il m'enverrait toujours une lettre chaque année, le jour de ton anniversaire. Comme j'ai été heureuse d'avoir des nouvelles de lui, il m'a envoyé ta petite photo. Tu es mon portrait craché à ton âge. Et en regardant ta petite photo ce soir, je m'arrête pour t'embrasser et puis à me souvenir. Les larmes viennent et je demande à Dieu de me laisser un jour réparer mes torts d'une façon ou d'une autre envers ton père et envers toi. Ce matin, je suis allé sur la tombe de ton père à Ingleside. On parle de transférer son cercueil au cimetière de Mount Moria à Deadwood. Une année et quelques semaines ont passé depuis qu'il a été tué, et on dirait un siècle. Sans vous deux, les années à venir m'apparaissent comme une piste solitaire. Demain, je vais descendre la Yellowstone Valley juste pour l'aventure et les sensations. Les O'Neill ont changé ton nom en Jean Irene, mais je t'appelle Janet pour Jane.
Sometimes I'd like to saddle the wind and ride to where you are. We may meet in a valley or on a green hill. Will I be used? Dearest one, my place in the sun is by your side, I know. So if I could, I'd saddle the wind. Some starry night, I'll saddle a wind and straight to your arms I'll go.
Chloé Mons et Alain Bachung avaient fait tout un projet musical et radiophonique autour des lettres de Calamity Jane à sa fille. C'est une des choses à laquelle on pense en lisant votre roman Le Grand Nord-Ouest, Anne-Marie Gara, notamment parce qu'il y a une relation creusée entre la mère et la fille, mais aussi peut-être plus généralement une réflexion creusée sur ce qu'est la filiation. Saviez-vous que dans cette fuite-là, dans ce départ-là, qui est au début du Grand Nord-Ouest, ce serait une des fortes questions?
Voilà un des motifs, par exemple, bien sûr, que je rencontre et encore dans mes livres, cette question de la filiation, de la transmission, des ruptures, des trahisons et des identifications et des adhésions. Et des adoptions. Il y a beaucoup, je sais, d'orphelines ou d'orphelins dans mes romans.
Mais aussi beaucoup de filiations qui se font au-delà du lien de sang.
Absolument. C'est ce que j'appelle les adoptions, qui sont encore plus miraculeuses et plus décisives, intenses, parce qu'elles sont l'objet d'un choix conscient ou inconscient, d'une pulsion. Mais enfin, adopter, c'est reconnaître la puissance au fond de soi, de ce désir de l'autre, de quelquefois dangereux, la manière dont Lottie adopte la petite fille, Lottie, la petite bonne adopte Anaïs au Naïepa et en fait sa chose. C'était toute l'ambivalence de l'amour. La manière dont Casca et Herman adoptent, entre guillemets, adoptent, acceptent auprès d'eux Lorna Del Rio et sa fille
qui sont donc les deux Indiens qui se trouvent sous la route voilà, de cette mère et de cette fille
qui les croisent et qui les prennent en en protection apparemment, en réalité, au nom de choses que la différence des cultures permet pas de toujours très bien comprendre, c'est qu'en réalité, il y a une dette que s'inflige Hermann, une dette absolument inamendable envers cette femme qu'elle ignore elle-même, envers la petite fille qui vient de lui faire le cadeau d'un porte-plume par une espèce de... Cette petite fille qui se calque un peu sur sa mère dans la séduction et dans la conquête des autres, elle lui offre d'emblée le premier soir un porte-plume à loupe qu'elle a d'ailleurs fauché en cours de route. Et ce cadeau oblige, il contraint. Et donc, il vous rend prisonnier. Et donc, dans cet échange-là aussi, se passe quelque chose qui ensuite est d'un retour, donne un retour d'entraide, qui apparaît dans nos, dans le cadre de notre culture à nous, comme une sorte d'altruisme et de bonté, je ne sais pas. Ce ne sont pas de gentils Indiens, Bud, dit Jessie. Elle, c'est cette figure, rousseauiste ou je ne sais pas quoi du bon sauvage, que j'essaie dans mon roman d'évacuer quand même, parce que cette grande question de la nature majuscule, de la vision de l'autre, d'abord cannibalisé, de ce primitif dangereux et débauché, et qu'il va falloir absolument soumettre, et par les moyens, on le voit à travers l'Indian Act canadien, aussi féroce que les lois américaines pour soumettre les peuples amérindiens, etc., ce que j'ai parlé tout à l'heure, de cette manière d'annihiler ces peuples, de les priver de toutes leurs ressources mentales, structurelles, enfin, et de leur vision, de leur politique, j'entends, de leur relation au monde et entre eux et au monde. C'est incompréhensible. Le comportement d'Hermann est incompréhensible. Et le cadeau qu'il fait à la petite fille, de ce totem de poche, avec des figures animales, apparemment bénéfique et protectrice, en réalité, elle s'en aperçoit très vite. Quand on inverse la position du totem, ce sont des figures monstrueuses et cauchemardesques et terriblement hostiles, mais qui en même temps est une transmission qui lui apprend par là, par cet objet, la réversibilité du monde, la réversibilité des apparences qu'il peut prendre, et donc que à la fois on ne peut se fier à rien, ou plutôt se fier à tout, et suivre son instinct, ou son intuition, que toutes les apparences ne s'imposent pas. Et peut-être que ce qui permet à la petite fille, après ce qu'elle a vécu, de pouvoir venir 15 ans après, raconter cette histoire, non pas pacifiée, mais intégrée à elle, à laquelle qu'elle a adoptée, dans laquelle elle se reconnaît et se rebaptise Nia, au lieu de Jessie. Ne appelle pas Jessie, Bud. Appelle-moi Nia, cette enfant, cet être qu'elle est devenue au contact. Ils l'ont adopté. Et donc, je sais que ce thème de l'adoption, de la filiation, de la transmission entre les femmes, entre les mères, mais aussi entre les êtres humains, les hommes, enfin, etc. C'est un des motifs sur lesquels je reviens sans cesse, qui me hante beaucoup, qui m'occupe beaucoup et que je n'achève pas, que je n'épuise pas.
Chaque livre vous permet quoi d'avancer sur ce chemin-là, quand vous dites c'est une question que je n'achève pas, que je n'épuise pas? Alors un livre permet quoi dans cette espèce de quête ou d'obsession, puisque c'est le mot que vous utilisez, Anne-Marie Gara?
Ben, je sais pas trop ce qui se passe, parce que ce livre-là n'achève rien. Il ne résout en rien la question. Et il va falloir un autre livre encore, et je mourrai évidemment sans avoir résolu la question, de livre en livre, et de ne pas à l'avance penser à un scénario tout prêt ou un programme, je ne sais pas, fixé, tiens, je vais faire tant de chapitres avec, il va arriver ça, ça, ça et ça et ça, et après il n'y a plus qu'à rédiger. Écrire, enfin être écrivain, c'est pas être rédacteur, quoi, d'application d'un programme narratif. Donc je ne sais pas où je vais quand je pars, réellement je ne sais pas où je vais, mais là où ça me mène, ça suffit pas encore, puisque quand je l'ai achevé, je dirais, allez, j'ai fait le travail, je me suis à moi-même raconté quelque chose, et ensuite au lecteur. La meilleure des choses qui puisse m'arriver et arriver au lecteur, c'est qu'on s'embarque ensemble, quelque part, provisoirement, pour quelques heures de lecture ensemble, dans une aventure de la phrase, une aventure du roman, une aventure de la fiction, et que là où nous serons arrivés, il se soit passé quelque chose en nous, en moi écrivain, dans le lecteur lui-même. C'est ce que j'ai à lui sauter de mieux, c'est ce qui m'arrive en tant que lectrice, que les livres qui me traversent, que je traverse, continuent de lire en moi et m'ont changé, m'ont bouleversé, m'ont grandi. Bon, si ça arrive, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas fini. C'est le prochain maintenant.
En 1966, Charlie Chaplin avec Richard Merriman.
J'étais un enfant particulier. À cause de la façon dont ma mère m'a élevé, et elle était fille de gitan. Toute mon enfance a été très malheureuse. Non pas que j'aurais été privé, puisque j'ai jamais vraiment eu faim.
Yes, but perhaps you're looking to a shop for something as a luxury. See a nice cake that you couldn't afford, unless there's plenty of bread and butter around.
Même s'il m'est parfois arrivé de voir un gâteau dans une vitrine et de ne pas pouvoir me le payer. Mais il y avait toujours un morceau de pain et du beurre à portée de main. J'ai jamais vraiment ressenti quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je l'écrive. Froidement. Objectivement.
Could see it as an artist, you see.
Comme peut le faire un artiste.
And then remember,
et tout m'est revenu.
Remember, even though the dirty clothes were in the wash tub, were left and back.
Le fait de porter des guenilles m'a replongé dans le passé.
All that is very vivid.
Tout est encore extrêmement présent en moi.
But I went back.
J'y ai repensé.
I suppose our emotions go in waves.
Je suppose que les émotions vont et viennent par vagues. Et je me suis dit, mon Dieu, je ne me rendais pas compte du nombre de logements dans lesquels on a pu vivre. Je pense qu'en 3 mois, on a changé 4, 5, 6 fois d'endroit. Alors j'ai ressenti de la pitié, de la compassion pour cette malheureuse femme avec ses 2 enfants.
Ça aussi, c'est merveilleux, cet archive de Charlie Chaplin sorti de la grande traversée consacrée à cette figure et diffusée sur France Culture. Anne-Marie Gara, vous faites référence de manière très explicite au kid de Charlie Chaplin dans votre roman Le Grand Nord-Ouest. Et puis on y pense aussi pour cette idée de la fuite, de la cavale, de la figure de l'adulte et de l'enfant, parfois inversée d'ailleurs. Est-ce que c'était une référence qui était là comme avec ces images ou simplement parmi d'autres, parmi toutes celles que le cinéma du Grand Nord-Ouest charrie?
Non, elle est vraiment centrale. Chaplin, là, qui évoque son enfance des misères effroyables de l'Angleterre industrielle et
qui lui
bas-fonds.
Revient quand il écrit. C'est ça qui est très,
oui.
Très beau.
Et dit-il aussi, à travers ses guenilles,
ouais. qu'il se costume,
dont
ça
il
devient.
Se costume, dont il se déguise avec tout ce que ça, l'acteur qui joue, hein, et qui se met sur le dos ses effets, lui restitue, comme il dit. Et n'oublions pas que Jack London, en 1904, fait ce travail de journaliste quand il va, embedded avant la lettre, se mêler aux miséreux de Londres, avant d'épouser le parcours des hobos, de ces mendiants de travail, de ces vagabonds, dont la figure de Charlot est le génie, c'est un génie absolu, universel. N'importe quel spectateur au monde et encore aujourd'hui peut être devant cette figure de Charlot, du misérable universel, dans une empathie et dans une fascination pour cette création. C'est quand même un... Et donc, et l'histoire du kid, si la petite fille regrette en quittant le Bosco à Juno, voyant s'éloigner le port, de n'avoir été son kid plus longtemps, c'est qu'elle aussi, elle l'a adopté, mais antérieurement, bien qu'ayant 6 ans, Miss Plunkett l'amène tout le temps au cinéma, elle a déjà épousé cette figure-là, a compris que dans cette figure-là, des misères et de l'enfant perdu et de l'enfant protégé, de l'enfant adopté, il y a là les fondements, c'est du mélodrame, mais tout ce qu'a le mélodrame comme genre immense lui aussi, au cinéma comme dans le roman, hein, tellement disqualifié ou moqué, il y a dans le mélodrame... comme dans Les Misérables, qui est un immense mélodrame lui aussi, de ces figures fondamentales qui nous fondent. Hein. Et donc, non, le kid n'est pas du tout
une référence d'image parmi les autres.
Oui, voilà, anecdotique et au passage, oui, oui. Pas plus d'ailleurs, vous voyez, dans le cinéma, il y a des références dans mon roman, la fin, je veux pas, la fin, comme dans
vous
l'homme.
Vous avez vu que j'ai rien dit de toutes les énigmes. Hein.
D'accord, comme dans L'homme qui rétrécit, qui est une référence implicite, cette disparition, disons, comme un atome de carbone ou d'or, et cependant, qui, c'est la fin du film, nous dit qu'il y a une présence, il y a une voix, il y a une voix encore, c'est la fin du film, de L'homme qui rétrécit, de Jack Arnold. Donc, cette référence implicite, c'est ça aussi, c'est cette permanence des figures du cinéma ou de la littérature en moi. Enfin, ce sont des présences. Et donc, je les convoque pour accompagner l'écriture du roman. Je pense que même le lecteur qui les connaît pas, ces références, il les sent. Il sait, nous savons, quand la littérature est hantée par ces citations ou ces... ou ces fantômes, ou je ne sais comment dire, que l'écrivain porte en lui, même s'il ne les connaît pas explicitement, et pas besoin d'une note en bas de page, conférer l'homme qui rétrécit, Jack Arnold, etc. Enfin, non, je pense que le lecteur le sait.
Vous disiez en début d'émission que dans un livre, peut-être, quelque chose se prépare du livre suivant. Est-ce que vous savez déjà le là-bas que vous réserve votre prochain ouvrage, Anne-Marie Gara?
Le là-bas, c'est aussi bien le proche, quelquefois, le très proche. C'est pas forcément dans l'extéritorialité, l'éloignement dans le temps ou dans l'espace, d'ailleurs dans le temps aussi, qui fait ce là-bas. Ce là-bas, c'est ce que je connais pas encore, quoi. Ce que j'ai pas encore assez approché. Donc,
ce sera peut-être un là-bas tout proche.
Voilà.
Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Grand Nord-Ouest, ça paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Actes Sud. Et puisque les correspondances de Manosque fêtent un bel anniversaire, eh ben, on va signaler votre présence parmi plein de romanciers, de romancières et d'auteurs. Vous serez par exemple le samedi 29 septembre à 11h à la librairie Le Bleuet, place Saint-Just à Bannon. Et à 16h30 le dimanche, cette fois, place de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup.
Merci.
Au son ce soir, c'était Jean Frédérix à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Mais évidemment, quand vous voulez, sur franceculture.fr, vous pouvez réécouter cette émission, les émissions qui l'ont précédée, trouver la liste des musiques et des archives qui sont diffusées, et puis aussi vous abonner au podcast. Je remercie Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier. Ils m'aident à penser et préparer cette émission, et je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture. Thank you.